Cube Radio.
Yasmine Abdel-Fadel. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe.
Cube Radio, Cube Radio.
Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Vox Populi, Vox Dei, vous vous êtes exprimés, chers amis. Hier, vous avez été près de 68 % à vous être présentés dans un bureau de scrutin et avoir enregistré votre préférence. Et les résultats ne sont peut-être pas surprenants, mais disons-le, ils sont spectaculaires. Évidemment, on se réveille ce matin puis on s'est dit « qu'est-ce qui s'est passé hier? » Il me semble qu'il y a trop de nouveautés, trop de nouvelles premières fois. Commençons par le gouvernement. Évidemment, il n'y a personne qui est surpris. Gouvernement majoritaire de la CAQ mené par François Legault à 90 sièges. C'est énorme, c'est historique. Et ça a été appelé très vite, hein? 20h08, on savait déjà que le gouvernement sera composé de la coalition Avenir Québec et sera majoritaire. Mais ça, honnêtement, on aurait pu faire l'appel à 16h, puis ça aurait été correct, puis ça aurait été juste là. Ça, il n'y a aucune surprise là-dedans. 90 sièges, c'est assez impressionnant. Puis la CAQ a peut-être balayé le Québec, mais elle n'a tout de même pas réussi la percée attendue dans la grande région de Montréal, notamment dans Maurice Richard, où une candidature vedette, Audrey Murray, a mordu la poussière. La Pinière, les libéraux l'ont maintenue. Vaudreuil, les libéraux l'ont maintenue. Ils sont quand même allés chercher, on va le dire, Anjou-Louis-Riel, Laval-des-Rapides et Fabre, mais on est loin de la percée dans la grande région de Montréal qui avait été prévue. Opposition officielle, formée par les libéraux, qui, encore de manière historique, forme l'opposition officielle, mais avec leur pire score à vie. 21 sièges, principalement dans la grande région de Montréal, à l'exception de Pontiac, où André Fortin a résisté à la vague caquiste. Et ce qu'il y a à noter, c'est que les libéraux sont arrivés, imaginez-vous, quatrième dans le suffrage populaire, avec juste 14 %. Et 14 %, c'est après, évidemment, les caquistes, mais les péquistes et les solidaires qui, eux, ont récolté chacun 15 %. C'est donc l'efficacité du vote libéral, principalement concentré dans la grande région de Montréal, qui leur a permis de sauver les meubles, aidés probablement, certainement, par les propos de Jean Boulet sur l'immigration, qui ont contribué à donner une raison aux Québécois de la diversité de sortir voter pour le Parti libéral. Autrement, je ne sais pas, les libéraux n'ont pas réussi à leur imposer une raison pour laquelle il fallait sortir voter pour eux. C'est la CAQ qui a réussi ça, c'est tout dire. Sinon, bien évidemment, Québec solidaire. Bien, Québec solidaire aussi a connu une première hier. C'est quoi la première? Bien, c'est leur première défaite à vie dans une circonscription qu'ils avaient déjà gagnée. Québec solidaire n'avait jamais perdu une circonscription qu'ils avaient gagnée. Hier, ils l'ont connue dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue avec Émilie Lessard-Terrien qui a malheureusement perdu son comté face à la CAQ. Elle devient donc tristement la première députée solidaire à perdre son siège. Mais, les solidaires peuvent se consoler. Ils ont gagné Maurice Richard avec Haroun Bouazi. Ils ont gagné Verdun jusqu'à preuve du contraire. Peut-être qu'il y aura un recomptage, mais ils auraient gagné Verdun et qui est représenté par Alejandra Zaga-Mendez, qui est la présidente de Québec solidaire. Donc, c'est mi-figue, mi-raisin pour Québec solidaire. Le PQ, c'est particulier parce que ils considèrent ça comme une véritable victoire, mais ils ont perdu 4 sièges. Moi, pour moi, quand t'as perdu moins pire que prévu, t'as quand même perdu, tu sais, t'as pas gagné. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon s'est fait élire dans Camille Lorrain. Il peut remercier la candidate qui s'est retirée de Québec solidaire à cause du vol de tracts dans les boîtes aux lettres, qui lui a permis de se faufiler et de gagner Camille Lorrain, anciennement Bourget. Évidemment, le sujet qui va déferler et sur l'actualité au courant des prochains jours, c'est ce déficit démocratique qui, aujourd'hui, on en a la preuve la plus, la plus criarde en plan ça, le Parti conservateur, qui a récolté 13% de voix et qui se retrouve avec aucun siège à l'Assemblée nationale. C'est vraiment particulier. C'est sûr que la réforme du mode de scrutin va être un sujet qui va être sur toutes les lèvres pour les prochains mois.
C'est toujours un comté très, très baromètre.
Marie Montpetit.
J'espère que ce gouvernement-là va en faire beaucoup plus qu'il en a fait jusqu'à maintenant.
On fait quoi?
Patrick Derry.
Pour sortir de ça, pour éviter de se reparler dans un an.
La rencontre Derry Montpetit.
Patrick, Marie, avez-vous veillé tard?
J'ai eu envie de me coucher à 8h09, là, mais... je me suis couché. Je sais pas toi, Marie, là, mais moi, j'ai...
Je me suis réveillée bien tard.
Tous les discours.
Pour voir les derniers résultats qui sont sortis quand même. Somme toute, il y a certaines circonscriptions dont on a su le résultat assez tardivement hier soir. Là.
Ouais.
Ouais, je me suis rendu jusque-là, mais je voulais, je sais pas si c'était sadique ou plutôt masochiste de vouloir entendre, de vouloir me fâcher après tous les discours. C'est drôle, tu parlais en introduction, tout le monde disait qu'il avait gagné. Moi, j'ai pensé à l'école des fans spontanément. Je sais pas si vous vous rappelez de l'émission du champ, je sais pas si ça existe encore, là, tu sais. Les enfants sont mignons, ils ont 3-4 ans, puis on, tu sais, l'impression de leur dire qu'ils ont bien chanté, tout le monde a gagné, peu importe les notes, mais tu sais, c'est pas vrai que tout le monde a gagné. Ben, c'était ça hier, mais c'était avec des adultes. Tout le monde était dans le déni. Les seuls qui disent, c'était fascinant, c'était fascinant. Et tout le monde a perdu, là. Je veux dire, les libéraux, pire score à vie. Les conservateurs, pas de siège. PQ, moins de siège la dernière fois. Québec solidaire, le plafond qui est atteint puis commence à se cogner dessus. Il y a juste la CAQ qui a fait des gains hier. C'était saisissant de voir.
C'est vrai qu'il y avait quelque chose de surréaliste à voir, entre autres, les partis de l'opposition fêter. On a vu des élus danser. Alors que je me disais, techniquement, il n'y a pas tant de choses à se réjouir. Là. Je comprends qu'il y en a qui ont sauvé un peu certains meubles, mais la suite va peut-être être plus difficile qu'ils pensent.
Moi, je pensais à ça en 2018. J'étais à la soirée électorale libérale, puis la défaite n'était pas celle qu'on a connue hier, mais les visages étaient longs. Tout le monde, tu sais, ça applaudissait pas ben. Le monde s'est regardé pour dire « ouch, ça fait mal ». Hier, j'écoutais le discours de Dominique Anglade, puis j'étais comme, j'ai-tu manqué quelque chose?
Non, mais...
Faut le dire, j'ai fait du lavage toute la soirée, parce que la soirée électorale est longue, fait que plier des vêtements, puis les remettre à leur place. Puis là, je me disais, OK, entre deux brassées, c'est sûr que j'ai raté un raz-de-marée libéral. Là, ça se peut pas, un discours victorieux de même, là.
Non, mais c'était surréel. C'est parce qu'il y a une espèce d'attitude. Dominique Anglade, faut lui donner ça. C'est quelqu'un qui a très, très, très confiance en elle. Puis qui, a toujours été présidente de quelque chose. Puis on va l'en chercher plus. Puis énormément de drive. Mais c'est toute une volée. Et tout le monde a perdu hier. C'est un désastre. Fait, tu sais, moi, j'irais plus loin que ça. Le Québec a perdu hier. C'est le Québec qui a perdu, là. Moi, quand j'entends victoire éclatante, record, machin, de la CAQ. Hey! 41% pour, 59% contre. C'est dans un référendum, là, c'est une défaite sans équivoque. Puis là, la seule affaire qu'on peut objecter à ça, c'est que ça fait 60 ans que c'est comme ça. Mais là, les fils commencent à étirer. Écoute, Québec solidaire, le PQ et le Parti conservateur ensemble, ils ont eu quoi? 43% du vote à eux ensemble. Ils ont 13 sièges. 14. La CAQ avec un petit peu moins de votes, ils en ont 90. Ça peut être plus éloquent que ça. Le PQ puis le PCQ ensemble, 28% des voix. 3 sièges. Puis évidemment, le PCQ, c'est tout contre lui seul, 0. Écoute, ça marche plus.
Ouais,
là,
tu l'as dit dans ton intro, Yasmine, tu sais, le sujet de la révision du mode de scrutin est déjà sur toutes les lèvres depuis ce matin. Puis c'est vrai qu'on a un système où il y a tu sais, cette distorsion-là, elle en a toujours fait partie, mais jamais à ce point-là. Donc, il y a encore quelques semaines, quelques mois, les gens disaient « Bon, ben non, c'est pas tant un problème que ça, puis ça devrait pas faire partie de la discussion et tout. » Mais là, ce matin, tu sais, on voit déjà Éric Duhaime, effectivement, qui a quand même eu 13% du vote populaire, qui a 0 siège à l'Assemblée nationale. Il y a des bons arguments, là, lui, pour prendre son cheval de bataille, puis dire « Je vais aller là-dessus. » On a vu... Monsieur Plamondon également là ce matin qui vient de sortir en disant il y a vraiment des distorsions importantes qui sont injustes qui viennent nous pénaliser comme formation politique. Donc j'ai l'impression que ça va faire partie des sujets, mais encore là, Monsieur Legault, on le sait, là, ça faisait partie de ses engagements qu'il avait pris avant d'être élu lors de son dernier mandat. Et rapidement, quand il est devenu premier ministre, ça ne l'intéressait plus, là, tu sais.
Mais c'est drôle parce que mathématiquement, on savait que c'était possible qu'il puisse y avoir des distorsions d'une telle ampleur. La première fois que c'est démontré, c'est arrivé, c'est pas juste hypothétique, c'est pas juste dans un imaginaire quelque part, ben c'est ça qui est arrivé hier.
Mais c'est ça qui est étonnant, moi surtout, c'est que c'était vraiment facile à prédire parce que c'est en partie ce qui s'est passé en 2018 là, puis tu sais on l'a vu aussi là, lors d'autres mandats précédemment, mais je veux dire, on le voyait venir, c'était évident. Il y a toutes sortes de projections qui sont faites notamment par Québec 125. Tu sais, on le sait que ça allait donner ça, mais on dirait que tout le commentariat politique, puis une grosse partie de la classe politique, en tout cas une grosse partie du commentariat, je devrais dire, là, était un peu dans « bah, ça fait partie du jeu, tant qu'il y a quelqu'un qui gagne, c'est pas grave ». Et là, on se réveille avec ça, on dit « hey, ça marche pas, il y a du monde fâché, il y a les 500 000 personnes qui ont voté pour le Parti conservateur ». C'est déjà des gens qui en avaient contre le système. Elles se sentent complètement trahies. Les jeunes qui votent beaucoup plus pour Québec solidaire, qu'est-ce que ça leur dit? C'est n'importe quoi. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de place pour nous autres là-dedans. C'est un système de vieux avec des vieux qui décident. Et puis, écoute, regarde le fonctionnement de l'Assemblée nationale, Marie. Là, tu peux en parler. Tu sais comment ça se passe. 3 sièges pour le Parti québécois. 3 sièges. Il y en a un là-dedans, là. Il va être critique en santé, en famille, en justice, en environnement. L'autre, il va faire finance, éducation.
Il ne va pas avoir ben d'occasion non plus de prendre la parole, il faut le dire.
Ben, ça va être la qualité, tu sais, du suivi des dossiers, des interventions dans ce temps-là. Fait que le gouvernement va faire place à une opposition divisée. Puis, évidemment, le parti là, qui est en le plus mauvais état dans l'opposition, d'une certaine façon, c'est le Parti libéral, là, qui n'est pas juste stagnant, qui décroît, puis qui comme il est sur le respirateur artificiel. Ben, ils sont récompensés, eux autres aussi, à cause de la concentration de leur vote. Fait que c'est le parti qui a le moins d'incitation à se remettre en cause. Puis c'est pas lui qui a donné la meilleure opposition les 4 dernières années non plus.
Des belles journées de discussion à venir. Sinon, Marie, je veux t'entendre très rapidement sur le discours de François Legault. Le discours, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que c'est trop peu, trop tard?
C'est un discours qui était quand même très, très contrastant avec le chef de campagne qu'on a vu au cours des 30 quelques derniers jours, très plus agressif, plus renfrogné, quand même fâché. Pas tendre avec fâché puis pas tendre avec ses adversaires. C'est sûr que là hier il a eu un grand discours sur le rassemblement puis sur le fait de l'importance de travailler tous ensemble. Écoute, ça ne peut qu'être bon pour la suite. Faudra voir est-ce que ce n'est que des paroles ou pas. Puis j'en reviens, ça pour moi ça fait partie aussi de la question de la distorsion. Comment les discussions vont se faire avec Éric Duhaime aussi, justement, parce que je pense que quand un chef de parti va chercher 13% de l'électorat, je pense qu'il y a une discussion qui doit être faite sur justement comment on lui tend la main, quelle place va lui être donnée à l'Assemblée nationale. Parce que là, il n'existe pas, lui, pendant les 4 prochaines années à l'Assemblée nationale s'il n'y a pas des accommodements qui sont faits. Donc, est-ce qu'on va lui permettre d'avoir un budget de recherche comme les autres partis? Parce qu'il le fait aussi bien que les autres partis en termes de pourcentage de vote. Non, effectivement, mais je suis sûre que c'est des discussions qui vont être faites de la même façon que les deux autres groupes, Québec solidaire et le Parti québécois, sont pas des groupes, des formations reconnues à l'Assemblée nationale parce qu'ils n'ont pas 12 députés ou 20% des votes. Donc, il y a des discussions, des accommodements qui vont devoir être faits en ce sens-là avec les autres partis, les autres formations politiques. Je pense qu'Éric Duhaime va certainement lever la main assez rapidement pour dire, moi aussi, je veux m'inscrire dans cette discussion-là. Est-ce que je peux faire des points de presse à l'Assemblée nationale? Est-ce que j'ai accès à des budgets de recherche? Est-ce que je peux participer à des commissions parlementaires? Ce qui serait quand même une première, mais si le premier ministre veut tendre la main et être le premier ministre de tous les électeurs, ben il y a quand même 13% des électeurs.
Mais c'est tout un débat, ça c'est faire absolument un raccourci de finalement des règles du jeu actuel plutôt que de vouloir changer les règles du jeu actuel. Marie-Patrick, je pense qu'on va avoir énormément de discussions. L'analyse sur cette campagne électorale n'est pas terminée. On reprend ça demain.
À demain.
Bye bye.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
Des analyses sur le monde sans frontières. Savoir et comprendre l'international, Guillaume Lavoie.
Bonjour Guillaume.
Bonjour Yasmine.
Alors, lendemain de jour de vote, jour de résultat de vote, on a tous l'impression un petit peu d'être un peu gueule de bois. Et il y a peut-être, t'as peut-être une réponse pour la raison pour laquelle on se sent un peu comme ça.
Oui, j'ai une réponse internationale. Alors aujourd'hui, le 4 octobre, et ça commençait donc à minuit et une, C'est le jour international de la vodka.
C'est voilà, ceci explique cela. Si vous avez mal à la tête, vous avez mal dormi, vous avez un petit mot d'estomac, c'est à cause de la vodka.
C'est ça. Comme disait mon vieux prof de chimie, tout est dans tout.
Tout est dans tout. Quoique juste l'idée de passer à la vodka, j'ai l'impression que... Ouf, il me semble que j'ai un petit frisson. La vodka russe. De toute manière, on peut-tu encore acheter de la vodka russe dans la SAQ ou...
Non, pas ici.
Toujours pas.
Mais il y a un énorme débat à savoir d'où vient la vodka. Et là, ça, c'est comme de savoir d'où vient la poutine. Mais la bataille finale se joue entre la Pologne et la Russie. Alors, si vous voulez faire un peu d'historique partisane, vous pouvez dire que ça vient de la Pologne.
Alors, entre la Pologne et la Russie, ça, c'est comme entre Drummondville puis Victoriaville.
C'est
à peu près.
Du même ordre.
Sinon, ben, il y a eu plus que de séisme politique ici au Québec hier pendant la campagne électorale. Il y a surtout eu ce tir de missile de la Corée du Nord au-dessus du Japon qui peut être très inquiétant.
Oui, alors là, imaginez, vous êtes dans votre maison tranquille dans le nord du Japon et là, vous entendez une sirène et c'est extraordinairement préoccupant, un peu un genre de sirène de sécurité civile. Et on s'en sert en cas de tir de missile. Et la Corée du Nord, qui avait rien d'autre à faire que de faire des essais pour lancer des missiles interbalistiques, donc potentiellement, ça c'est la fusée, vous pouvez mettre dans la fusée ce que vous voulez, peut-être même une ogive nucléaire, et le fameux missile a passé par-dessus le Japon pour aller s'échouer après dans la mer, mais vraiment c'est un signal d'alarme important. Et là, juste pour situer la chose, la Corée du Nord 101, c'est quand même 25 millions de personnes, la capitale Pyongyang, c'est probablement le pays le plus fermé du monde. Moi, j'ai rencontré des Nord-Coréens à deux reprises dans des congrès internationaux. Ils étaient accompagnés, pour ne pas dire gardés.
Chaperonnés.
On ne pouvait pas leur parler. C'était vraiment là, on est dans un régime fermé, hyper contrôlant, hyper totalitaire, dirigé de droit divin et héréditaire par, et là ça dit tout, le leader suprême, qui là maintenant est Kim Jong-un, qui est le petit-fils d'un autre leader suprême et le fils de celui qui a suivi. Et géographiquement, vous êtes pas tellement loin du Japon, au nord de la Corée du Sud, avec laquelle il y a eu une grosse guerre. Et il n'y a pas d'accord de paix. Hein?
Non.
Il y a, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il n'y a pas de paix. Il n'y a qu'un cessez-le-feu, mais qui dure depuis les années 50 quand même. Et au nord, c'est la Chine. Et ça, c'est très important. Et à la fin, là, c'est quand même particulier. C'est la quatrième plus grosse armée du monde, bon, en bottes, donc en soldats, mais équipée comme dans les années 50, sauf exception, qui sont capables d'envoyer des missiles avec potentiellement des ogives nucléaires. Donc, ça inquiète quand même la planète Terre au complet. Et je vous entends déjà là, en disant, c'est le pire régime au monde, il affame sa population, c'est un Moses. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas sauter? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas empoisonné dans son sommeil? Pourquoi on ne renverse pas des régimes comme celui-là? On a fait ça ailleurs. Mais parce que le problème, c'est la Chine. Il y a des raisons, je vous dirais, égoïstes d'avoir la Corée du Nord dans le décor. D'abord, il y a 25 millions de personnes en Corée du Nord qui ne mangent pas vraiment tout à leur faim. Si
non.
Jamais le régime s'effondrait et qu'il n'y avait plus de soldats pour les empêcher de se sauver, imaginez la vague de réfugiés en Chine. Alors, la Chine a plutôt intérêt à ce que le régime se maintienne comme ça, aussi terrible ça puisse être. C'est aussi un problème pour l'Occident. On parle de quelqu'un qui est une puissance hostile, aux Américains, avec des ambitions nucléaires. Alors, d'avoir une espèce de grosse roche dans la botte de l'Occident, quand vous êtes le rival de l'Occident, pourquoi pas? Puis à la fin, il y a la Corée du Nord juste l'autre bord de la Corée du Sud. Il y a la Corée du Sud juste au bord de la Corée du Nord. Il y a plein de soldats américains là-bas. La Corée du Sud, c'est un allié très important des États-Unis et donc de l'armée américaine. Alors, est-ce que je voudrais vraiment que la Corée du Nord s'effondre et qu'il y ait une réunification des Corées et avoir un allié américain collé sur mes frontières? Là, c'est la logique chinoise. Mais dans le fond, c'est bien grave, c'est bien triste, mais ça m'arrange. C'est un peu la politique chinoise ici. Et là, la grande question, c'est comment ça se fait qu'ils réussissent? Comment il se fait qu'ils réussissent à se maintenir au pouvoir? C'est un Max la menace, le dirigeant nord-coréen, qui s'amuse toujours à dire « je reprends mes essais » ou « vous m'envoyez de l'argent ». « Je reprends mes essais » ou « vous me permettez d'en faire un peu plus » ou « là, je suis pas content, vous avez dit telle chose, j'envoie un missile ». Et c'est comme ça qu'il joue la chose. Mais la grande question, c'est comment est-ce qu'un régime qui n'arrive pas à se nourrir est capable de assembler les fonds nécessaires pour envoyer un missile au-dessus du Japon, un missile qui pourrait aller à 3 ou 4 000 kilomètres.
Mais c'est une drôle de question, ça. Ça, c'est une question, c'est sûr, qui tout le monde se la pose. Comment se fait-il qu'on soit capable, en Corée du Nord, à assembler des missiles aussi puissants, mais en même temps laisser la population mourir de faim?
Ben d'abord, il y a une partie de la réponse est dans la question. C'est-à-dire, quand tu nourris pas ton peuple, tu as un peu plus d'argent dans tes poches, surtout quand tu es le leader suprême. Et la Corée du Nord, c'est véritablement, là, s'il y a un pays qui incarne le mal, le mot maléfique en un sens, c'est certainement la Corée du Nord. D'abord, on est beaucoup dans l'illégalité profonde, là, avec d'autres pays sur la liste des maléfiques, la Syrie, par exemple, où on va exporter plein de choses en dessous de la couverture avec des bateaux qui passent à travers les contrôles parce qu'ils ont d'autres pavillons. Il y a une collection de compagnies écrans, des entreprises écrans enregistrées sous de faux noms et autres pour opérer un peu dans le monde et même se lancer dans des projets d'infrastructure. Par exemple, au Cambodge, un gros musée extraordinairement populaire, c'est la Corée du Nord qui l'a financé. Donc, ils ont payé pour construire le musée avec des travailleurs nord-coréens et en échange d'obtenir tous les revenus du musée. Imaginez ça, là. Des travailleurs nord-coréens, c'est véritablement, on a en Corée du Nord un régime d'esclavage d'ampleur nationale. À l'étranger, on envoie des travailleurs qui sont essentiellement des prisonniers en disant, si tu ne travailles pas à l'étranger puis si tu ne te comportes pas comme il faut, ta famille va y goûter. Mais tout leur salaire, lorsqu'ils travaillent, par exemple, en Pologne ou en Mongolie, ça s'en va dans les poches du leader suprême. Et au national, il y a même des usines, des fameux sweatshops, là, des usines de vêtements ou autres, sous le radar, qui n'existent pas, pour faire la besogne que les Chinois veulent plus faire. Et ça, c'est... Vous voyez qu'il y a toutes sortes de manières d'enrichir, de manière criminelle, un régime qui l'est encore plus, et cet argent-là s'en va pour les jouets de luxe du leader et le développement de programmes comme ce programme de missiles-là. Alors, il devrait y avoir, normalement, l'ONU a un festival de sanctions contre la Corée du Nord. On n'est peut-être pas encore assez sévère dans la manière dont on l'impose. Le drame, c'est est-ce que le peuple va souffrir? Oui, mais c'est pas comme si, avec le leader actuel, c'était tellement mieux.
C'est assez particulier ce qui se passe un peu partout dans le monde, notamment en Corée du Nord, comme si dans ces régions du monde et notamment en Europe aussi avec la Russie, on avait besoin de cette instabilité. On l'a déjà assez vécu au courant des trois dernières années. Guillaume Lavoie, merci beaucoup. On se retrouve demain.
Au plaisir.
Yasmine Abdel-Fadel. Une main de fer dans un gant de velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe.
Cube Radio.
Vous avez regardé la soirée électorale comme moi hier et évidemment, ben aujourd'hui tout le monde parle de ce déficit démocratique qui on l'a vu, le Parti conservateur avec 13% des suffrages populaires à zéro député. On a avec nous Éric Duhaime, chef du Parti conservateur. Bonjour Monsieur Duhaime.
Bonjour.
Déjà, félicitations et bravo pour votre campagne électorale. 13%, ce n'est pas rien pour un parti qui n'existait pratiquement pas il y a un an.
On est le parti qui a connu la plus forte croissance hier. On a monté de 12% nos appuis. On est le seul parti d'opposition, en fait, qui a été en croissance là, depuis la dernière élection. Donc, c'est quelque chose qui, pour nous, est très important. Mais cela étant dit, comme vous l'avez souligné en début d'émission, là, le fait de ne pas avoir de députés, c'est quand même un peu choquant. Là, c'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'un parti obtient autant de votes et se ramasse sans aucun député à l'Assemblée nationale. Pour donner un exemple, une comparaison, quand Québec solidaire a fait son entrée à l'Assemblée nationale avec Amir Kadir, le parti avait fait moins de 4% sur la scène nationale. Quand Mario Dumont a fait son entrée avec l'Action démocratique du Québec, le parti avait eu 6,5%. Nous, on est à 13 et on ne sera malheureusement pas représenté. Donc, il y a eu vraiment une grosse distorsion démocratique. On a pratiquement le même nombre de votes que le Parti libéral. On a 530 000 votes. Je pense que les libéraux sont à 580 ou 590. Et les libéraux se ramassent avec 21 députés, nous autres, zéro.
C'est particulier ce qui s'est passé hier parce qu'on a l'impression que finalement, ces craintes hypothétiques que le mode de scrutin actuel a mené, ben, ils ont vu le jour hier, là. Concrètement, ça existe, ça peut arriver, c'est arrivé que 13% de la population ne puisse avoir aucun siège à l'Assemblée nationale. Par contre, là, on rentre dans un gouvernement majoritaire de 4 ans. On sait que M. Legault n'a pas d'appétit pour changer le mode de scrutin. Les libéraux ne gagnent rien à le changer dans sa formule actuelle.
Non.
Quoi faire pour faire valoir votre point, vous qui êtes absent de l'Assemblée nationale?
Mais 2-3 choses. D'abord, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas d'appétit de la CAQ maintenant, mais vous rappelez-vous qu'il y a 4 ans, c'était un engagement solennel, qu'il disait même que ça allait être la dernière élection.
Ben écoutez, Monsieur Duhaime, on va écouter l'extrait qui date de 2018.
On a besoin que le plus de personnes possibles travaillent ensemble. Je pense que le mode de scrutin proportionnel mixte aide justement à ce qu'on travaille davantage ensemble, que ce soit possible de le faire, qu'il n'y ait pas un gouvernement qui ait été élu par une minorité de Québécois qui soit capable de prendre des décisions pour une majorité. Donc, moi, je pense que ça va dans le sens, à long terme, du mieux-être des citoyens québécois. Moi, je pense qu'un gouvernement qui ne respecterait pas cette volonté-là des citoyens se retrouvait en difficulté à moyen terme.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, 60 % des Québécois n'ont pas voté pour François Legault aujourd'hui. Il a 90 élus sur 125 à l'Assemblée nationale. La distorsion démocratique a joué à plein en sa faveur. Puis là, aujourd'hui, tout d'un coup, soudainement, il n'est plus du tout intéressé à réformer ça. Ça témoigne de beaucoup de choses, mais je comprends que ça se passera pas. Là. Je comprends que c'est une bataille perdue d'avance si je me lance dans une volonté de vouloir réformer le mode de scrutin, parce que, comme vous l'avez souligné, non seulement le gouvernement est contre, mais en plus, l'opposition aussi, elle a été avantagée hier. Elle a quand même perdu 400 000 votes, là, l'opposition officielle. Et malgré tout, les libéraux ont réussi à s'accrocher à leur statut d'opposition officielle. Donc, il n'y aura aucune volonté de changer le mode de scrutin. C'est pour ça que moi, je demande en haut, à tout le moins, qu'il y a un Québécois sur 7 là, qui puisse être minimalement représenté à l'Assemblée nationale. J'en ai même parlé avec le premier ministre hier. Je pense que c'est important, de, par exemple, que je puisse participer, je peux tenir mes conférences de presse à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale, à la tribune de la presse, comme je le faisais jusqu'à maintenant, parce qu'on avait Claire Samson, qui était notre députée du Delta, oui, qui avait traversé le plancher. Je connais aussi un bureau à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse se préparer, pour préparer nos trucs, qu'on puisse aussi avoir un budget de recherche, un budget pour nos communications, parce que l'Assemblée nationale reconnaît des groupes parlementaires en fonction de 2 critères. C'est soit le pourcentage des voix obtenues ou soit le nombre de sièges.
Mais là, il n'y a rien qui garantit que Québec solidaire et le Paul Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois vont être reconnus comme groupes parlementaires.
Il n'y a aucune garantie. Là. Normalement, les 3 partis ne devraient pas être reconnus si on y va strictement par les règles écrites. C'est-à-dire que c'est 12 députés ou 20%. Il n'y a aucun des 3 partis qui a obtenu un de ces deux critères-là. Cela étant dit, il y a eu beaucoup d'exceptions au fil du temps, notamment le Parti québécois et Québec solidaire lors de la dernière élection. Donc, on va s'asseoir, on va négocier, on va voir, mais je suis convaincu que pour le bien démocratique, là, il faut absolument qu'il y ait une entente. Là. On ne peut pas être la pire fois dans l'histoire du Québec où on va dire à 1 citoyen sur 7, vous n'avez pas le droit, vos idées n'ont pas leur place à l'Assemblée nationale. Les 530 000 personnes qui ont voté conservateur, sortez dehors si vous voulez vous faire entendre. Ça serait un très, très mauvais message à envoyer. D'autant plus qu'on le sait, là, il y a eu une colère, il y a eu une grogne. Moi, je l'ai dit, de la faire entrer cette grogne-là à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est important en démocratie, c'est quand on n'est pas content, il faut l'exprimer. Il y a des gens qui l'ont exprimé, ça serait bien de vous qu'on les écoute pas.
Mais en même temps, M. Duhaime, il y avait beaucoup cette fronde-là, le fait qu'il y ait des personnes qui étaient fâchées. C'était beaucoup relié aux mesures sanitaires qui sont aujourd'hui à toute fin pratique derrière nous. La pandémie est derrière nous. C'est quoi le message que vous voulez porter à l'Assemblée nationale? Parce que on va parler d'autre chose que de santé également, M. Duhaime.
Non, non, mais vous savez comme moi que le Parti conservateur du Québec a quand même présenté une plateforme avec des idées fortes. On a réussi à imposer des thèmes durant cette campagne électorale-là. Je pense notamment à l'addition du privé dans le domaine de la santé. Je pense on était le parti qui proposait les plus généreuses baisses d'impôts. Je pense à l'exploitation de nos hydrocarbures, notamment le gaz et le pétrole. Je pense au projet GNL au Saguenay. Je pense à la liberté de choix des parents en matière de garde de leurs enfants. Il y a plusieurs thèmes où le Parti conservateur s'est démarqué par rapport aux autres. Là. Et ce serait important que ces idées-là se fassent entendre là, à l'intérieur des murs de notre Parlement.
Sinon, pour vos députés, vos candidats, est-ce que vous regrettez la qualité de certains candidats et les propos qu'ils ont pu tenir? Est-ce que ça a pu nuire à ce que vous puissiez atteindre au moins une circonscription?
Ben écoutez, on n'a pas le monopole à avoir des candidats qui ont eu des propos controversés. Il y en a même qui ont été obligés d'en retirer plus que nous, là. Donc, on est le parti qui a retiré le moins de candidats aux propos controversés. On n'a pas eu le monopole de ça. Cela étant dit, vous avez raison qu'il va falloir bonifier notre équipe de candidats, puis on va le faire. On a 4 ans pour le faire. Tout a été fait à la hâte. Pour nous, on partait à zéro. Moi, j'ai été élu il n'y a même pas un an et demi. Il fallait tout faire en même temps. Moi, j'ai rencontré 300 candidats personnellement au cours des derniers mois en vue de former une équipe de 125 candidatures. Là, on a 4 ans pour le faire. Je pense qu'on va pouvoir prendre les meilleurs éléments de l'équipe actuelle et la bonifier à partir de là. Puis on a 4 ans pour le faire. Donc, je pense qu'on va être capable de présenter une équipe encore plus qualifiée lors de la prochaine campagne électorale.
Parlons de Chauveau, M. Duhaime. Est-ce que vous êtes déçu d'avoir perdu Chauveau? Parce que, on va se le dire, vous étiez devant Sylvain Lévesque, qui est un député qui est très sympathique, un homme qui est très gentil, mais c'est pas un ministre sortant, c'est pas une candidature vedette de la CAQ qui avait un gros portefeuille et que c'était une bataille des titans. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon de votre défaite dans Chauveau?
Bien, d'abord, c'est sûr, quand t'es chef d'un parti, tu peux pas passer autant de temps que ton adversaire dans la circonscription. J'aurais aimé pouvoir faire du porte-à-porte à tous les jours. J'aurais aimé aller à la rencontre des citoyens davantage. Quand t'es chef de parti, t'as 125 circonscriptions à parcourir. Donc, c'est évident que j'ai passé beaucoup moins de temps. J'ai eu moins d'énergie dans Chauveau que mes adversaires ont pu le faire. Deuxièmement, les gens votent. C'est quand il y a un député qui est sortant, il y a déjà une sympathie. Il y a des gens qui avaient déjà voté pour la CAQ avant la campagne électorale. Donc, on savait qu'on partait là avec une grosse... un gros travail à faire. Et aussi, il faut le dire, là, la coalition Amnesty Québec a mis énormément de ressources dans la circonscription de Chauveau. Là, vous devriez voir le nombre d'attachés politiques qui ont passé quelques mois dans Chauveau. C'est assez impressionnant.
Votre candidat en Beauce pourrait demander des contestations. Est-ce que vous vous confirmez que ça va être contesté, les résultats de la Beauce-Nord?
Ce matin, il y a eu le recensement des votes. Donc, il y a eu une rencontre au bureau du directeur du scrutin avec notre candidat, son organisateur. Il y a effectivement eu quelques anomalies. Il y a aussi près de 400 votes qui ont été rejetés dans cette élection-là, alors qu'il a perdu par 200 votes. Donc, il est possible, on pourrait demander un recomptage. On est en train d'évaluer là, les recours possibles au moment où on se parle. Mais le recensement des votes est déjà fait. Il s'est fait ce matin. J'ai parlé à mon candidat et ce matin, cet après-midi. Puis on est en train de voir qu'est-ce qu'on va faire pour la suite des choses.
Ça serait une bonne nouvelle pour vous d'au moins avoir un représentant si jamais le recomptage est en votre faveur?
Ça serait une excellente nouvelle, effectivement.
Alors, M. Duhaime, merci d'avoir accepté l'invitation et on va suivre les discussions entourant les contestations en Beauce.
Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir.
Vous avez entendu Éric Duhaime qui, évidemment, dénonce ces distorsions démocratiques que l'on a pu voir hier. 13% des suffrages ont été vers le Parti conservateur pour finalement avoir 0 siège. Pour le Parti québécois, on est un peu dans la même catégorie, mais au moins, eux, ils ont 3 sièges dans le chef. Paul Saint-Pierre Plamondon qui a réussi à se faire réélire dans Camille Lorrain. Ils ont 15% des voix. Ils ont 3 sièges. Et là, les libéraux, évidemment, avec 14% des voix, donc moins que le Parti québécois, se retrouvent avec 21 sièges. C'est quand même énorme. Et là, ça devient difficile de dire que le système fonctionne. Ça devient gênant, tant pour le gouvernement que l'opposition officielle, de dire que le système, grosso modo, n'est pas injuste. Parce que là, c'est réellement injuste. Je me demande si on allait avoir la même intensité d'avoir de ces discussions sur la réforme du mode de scrutin si Éric Duhaime avait au moins remporté un seul siège. Parce qu'un seul siège lui permet une certaine présence et de certains privilèges de l'Assemblée nationale à titre d'élu, chose qu'il n'a pas aujourd'hui. Et là, ça devient difficile. J'entendais Marie Montpetit en parler. Maintenant, on entend Éric Duhaime en parler. De dire d'avoir, étant donné qu'il a 13 % dans les sondages, il devrait y avoir quelques privilèges qui doivent venir avec. Ces privilèges doivent être donnés par le premier ministre. Notamment tenir des points de presse à l'Assemblée nationale, s'adresser à la tribune de la presse, pouvoir participer éventuellement à des commissions parlementaires. Pour moi, ça devient plus difficile parce que je ne voudrais pas, personnellement, que l'on politise les règles démocratiques. En fait, que l'on change les règles de manière démocratique puis qu'on dise à partir de la prochaine élection, c'est ça les règles du jeu, il n'y en a pas de problème. Mais maintenant qu'on se rend compte que les règles sont injustes, de faire des petits raccourcis là, pour assurer qu'il y a un semblant de justice parce qu'on lui a permis de faire des points de presse à l'Assemblée nationale. Ça, moi, j'ai pas mal de misère avec ça. Un non-élu qui pose des questions en commission parlementaire, qui participe à la commission parlementaire, ça crée un précédent qui peut être dangereux à terme. Et ça, c'est important qu'il puisse y avoir une discussion là-dessus, là, parce qu'il faut quand même protéger nos institutions démocratiques. Passons du côté de l'Outaouais, du côté de Pontiac particulièrement, où André Fortin, député libéral, a été réélu. Il a réussi à défendre les couleurs libérales dans cette marée caquiste qui a frappé l'Outaouais. Et nous avons avec nous André Fortin. Bonjour, M. Fortin.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien. Félicitations pour votre victoire dans la circonscription de Pontiac. Comment est le réveil ce matin?
Bien, d'abord, comme dans les dernières élections, je suis honoré de la confiance des citoyens. Je l'apprécie énormément. Je suis allé les remercier ce matin au coin d'une intersection occupée en les saluant, mais c'est à chaque fois qu'on est élu, c'est un privilège, donc on accepte ça avec toute l'humilité nécessaire. Mais en même temps, c'est sûr qu'il y a un pincement au cœur quand on voit certains de nos collègues morts de la poussière, ma collègue de Hall qui était ma voisine de comté, mais ma complice dans nos relations avec les partenaires régionaux qui tombent au combat après avoir servi les gens de la région pendant 14 ans. Alors, je lui lève mon chapeau pour le service public qu'elle a accompli, mais c'est vrai que je me sens un peu plus seul ce matin.
Et vous avez beaucoup de poids sur les épaules parce que vous devenez tout d'un coup, du jour au lendemain, le seul représentant des régions au sein du caucus libéral. Comment on peut justifier au Parti libéral de ne pas avoir eu fait de meilleurs scores que ça?
Alors, je ne sais pas s'il y a une justification à donner. Ce que je sais, par exemple, c'est qu'il faut redoubler d'ardeur, il faut parler aux gens des régions. Moi, j'ai hâte au post-mortem pour parler avec les candidats qui se sont présentés en région, qui ont eu des appuis, disons, limités là, dans leur circonscription, pour comprendre ce qu'eux ont entendu, ce qu'eux ont eu comme échange avec les citoyens. C'est la première chose à faire là, pour essayer de voir comment on peut aller à la conquête éventuelle des régions, mais aujourd'hui, je pense qu'on a un travail vraiment un travail de longue haleine pour comprendre ce qui s'est passé, puis comprendre ce que peut-être les gens de certaines régions au Québec vivent différemment que les gens de ma circonscription ou les gens de régions plus urbaines.
Monsieur Fortin, hier, je regardais le discours de Mme Anglade, puis je me demandais si j'assistais à la bonne soirée électorale, parce que c'était un discours de victoire. Comment vous avez réagi devant ce discours-là? Parce que, honnêtement, je pensais en avoir raté quelques circonscriptions qui avaient été remportées par les libéraux pour me rendre compte que non. C'était le discours de Mme Anglade.
Bien, ce que vous soulignez là, moi, j'ai eu la même réaction en entendant tous les chefs de parti, honnêtement. Je trouvais que tout le monde pensait qu'il avait gagné hier soir. Puis probablement qu'à l'intérieur de chacune des formations politiques, là, il y a quelque chose. Peut-être pour se réjouir, puis il y a quelque chose, disons, qui est pas mal moins réjouissant. Quand on perd des députés, comme c'est le cas pour nous, c'est pas réjouissant. Mais en même temps, on a entendu, comme plusieurs autres, là, les analystes parler de la course à l'opposition officielle, qu'il y avait un grand risque que le Parti libéral ne puisse pas maintenir son statut d'opposition officielle. Je pense qu'aujourd'hui, on se réveille avec un score où nous, on a 21 sièges, le plus proche poursuivant, disons, on a 11.
Mais donc, en même temps, M. Fortin, vous avez 14 % des suffrages, donc vous êtes quatrième d'un point de vue de vote populaire.
Oui, absolument. Et c'est pour ça que je vous dis, là, tout le monde a peut-être source de réjouissance d'un côté, mais source d'inquiétude de l'autre. Pour nous, là, ça mène à effectivement une réflexion à avoir parce que la raison pour laquelle on se retrouve avec un pourcentage comme celui-là, c'est beaucoup certaines régions du Québec. Donc, on aura un exercice important à faire d'entendre ce qui nous a été partagé par les gens des régions. En même temps, on a un mandat clair là, comme opposition officielle de la part des Québécois. Ils nous ont demandé d'être une opposition au gouvernement Legault.
Mais vous l'ont-ils vraiment demandé ou est-ce que le mode de scrutin actuel permet de maintenir un certain nombre de circonscriptions, notamment dans la grande région de Montréal, dans l'ouest de l'île, qui fait par défaut partir avec une prise d'avance?
Bien, moi, je comprends la discussion qu'on a aujourd'hui là, sur le mode de scrutin. Être dans les souliers du Parti québécois ou du Parti conservateur, je voudrais qu'on ait cette discussion-là. Puis d'entrée de jeu, moi, je dis qu'on est ouvert à en parler, à voir ce qui peut être fait pour que les citoyens sentent qu'ils sont bien représentés à l'Assemblée nationale. Mais en même temps, le système dans lequel chaque parti a opéré pendant la campagne électorale, on le connaissait d'avance. Alors, chaque parti prend des décisions sur le quotidien de leur chef, sur les ressources à mettre dans différentes circonscriptions, basées sur le mode électoral qu'on a en ce moment. Puis là, je vous donne un exemple bien simple, mais si M. Duhaime tenait absolument à faire élire un député, il aurait pu passer l'entièreté de sa campagne en Beauce, puis peut-être qu'il y aurait eu des députés à l'Assemblée nationale.
Mais en même temps, Mme Anglade a fini sa campagne à Ngava, puis elle était partout au Québec, elle n'est pas allée dans l'ouest de l'île, puis elle s'est fait élire dans l'ouest de l'île.
Mais c'est un choix. Tout le monde regarde ce qui se passe sur le tableau indicateur, puis fait des choix en cette matière-là, puis fait des sacrifices dans certaines régions, puis fait des investissements, disons, dans d'autres. Donc, tout le monde travaille à partir du même système en ce moment. Est-ce qu'on doit avoir une discussion sur l'avenir de ce système-là à la lueur des résultats? Je pense que c'est inévitable d'avoir cette discussion-là. Et Mme Anglade l'a mentionné d'ailleurs au cours des derniers jours de campagne, quand le scénario qui s'est produit hier soir a commencé à sembler de plus en plus probable.
Il y a une phrase de Mme Anglade hier dans le discours qui m'a frappée. Ben, en fait, pas tout à fait une phrase, mais un début de phrase où elle disait « Au courant des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années, je vais tout donner. » Ça suppose que Mme Anglade va rester. Est-ce que Mme Anglade mérite de rester à la tête du Parti libéral du Québec?
Mais je crois qu'elle est tout à fait légitime de le faire. D'ailleurs, moi, ce que j'ai vu de Mme Anglade au cours des dernières semaines de campagne électorale, ou au cours des semaines de campagne électorale, c'est une chef qui était dynamique, même si les sondages n'étaient pas à leur meilleur, et ce, du début à la fin de la campagne. C'est une chef qui avait l'énergie pour mettre ses idées, ses propositions de l'avant, qui avait un bon programme politique et qui...
C'est sorti 16 milliards de dollars dans un trou d'un cadre budgétaire du Parti de l'économie, présidé par l'ancien ministre des Finances, mené par l'ancienne ministre de l'économie. C'est toute une gaffe, ça.
Je vous dis pas que c'est parfait, mais je vous dis qu'il y avait des bonnes idées dans le programme électoral du Parti libéral. Alors moi, je pense que c'est quelqu'un qui fait une campagne comme ça, sans compromis sur les valeurs du parti, a tout à fait sa place.
Alors, est-ce que vous pensez que le caucus va demander à ce que Mme Anglade cède son siège à quelqu'un d'autre par intérim le temps d'organiser une campagne au leadership ou pas du tout?
Moi, j'en suis pas là du tout. Là, on n'a pas eu de conversation entre candidats. J'ai pas rencontré la majorité de mes collègues. Il y a beaucoup de nouveaux visages au Parti libéral. Moi, j'ai hâte à la première rencontre de caucus. Mais ce que vous avancez là, c'est la première fois que ce serait la première fois qu'un collègue m'en parlerait.
Ben, je pense que la question pourrait être légitime à 14 % des suffrages. Vous pensez pas que la question pourrait se poser?
Ben moi, j'ai déjà répondu à votre question. Okay. Moi, je pense qu'elle est légitimement en poste en ce moment et que la campagne qu'elle a menée lui permet de demeurer.
Parlons de la campagne, monsieur Fortin. Est-ce que vous êtes satisfait de l'organisation terrain de la campagne?
électorale. On peut pas dire qu'on ne connaissait pas la date de la campagne électorale. On est dans des élections à date fixe. Est-ce que l'organisation sur le terrain, la tournée, les candidatures qui ont été recherchées, le pointage, la sortie de vote, c'est ce que vous a habitué le Parti libéral du Québec?
Ben, il y a eu des ratés pendant la campagne électorale, on ne s'en cachera pas. Le va-et-vient par rapport à la candidature rejetée ou pas à Matane, les candidats qui manquaient encore à l'appel en début de campagne, il y a eu des ratés pendant cette campagne électorale-là. Je ne pense pas qu'on peut dire le contraire aujourd'hui.
J'imagine qu'il va y avoir dans le post-mortem que le caucus va mener, il va y avoir ces discussions-là également.
J'ose croire, oui.
Ben, merci beaucoup, M. Fortin. Félicitations encore pour votre réélection dans le comté de Pontiac et pour désormais votre titre de seul représentant des libéraux en région.
Merci, bonne journée.
Yasmine Abdel-Fadel.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
187 cube radio.
1-877-827-2346. Cube radio. Cube radio.
En direct à LCN.
Moment d'aller joindre Yasmine Abdel-Fadel dans les studios de Cube Radio. Dans les prochaines minutes, Yasmine, il y aura François Legault. On voit là que ça commence à s'installer sur l'île d'Orléans pour accueillir donc François Legault qui va répondre pour la première fois aux questions des journalistes, évidemment par rapport à sa victoire d'hier, par rapport également à ce que ça dit sur notre mode de scrutin. J'ai l'impression qu'il va y avoir des questions également là-dessus, mais Yasmine, tu voulais nous parler du discours, oui, déjà hier soir de François Legault. Tu l'as trouvé différent de ce à quoi on s'était habitué pendant la campagne?
Je me disais, pourquoi ce François Legault, avec ce discours-là, on ne l'a pas vu pendant les 36 jours qui ont précédé la journée du vote? Il avait un discours qui se voulait rassembleur, parler de l'immigration qui était une richesse pour le Québec, que c'était un cadeau mutuel que l'on se faisait lorsqu'on travaillait sur l'intégration. C'est exactement ça que Paul Saint-Pierre Plamondon a fait, par exemple, tout en proposant une baisse des seuils d'immigration. Donc, où est passé ce François Legault? Je pense qu'hier, François Legault s'est rendu compte que le discours sur l'immigration a pu lui coûter quelques sièges dans la grande région de Montréal. Peut-être aurait-il pu gagner 1000 îles, par exemple, c'est ça, dans Laval. Ça aurait été beaucoup plus facile. Est-ce que ça lui a coûté des intentions de vote, en fait, des appuis dans Crémazie, où il avait une candidature vedette qui a malheureusement mordu la poussière devant Québec solidaire? Est-ce que ça aurait pu aider dans Sherbrooke? Alors, c'était peut-être ces déclarations qui ont nui à la performance de ces candidatures vedettes qui, elles, sur le terrain, donnaient leur 100%. Peut-être il s'en est rendu compte, mais discours rassembleur dans une victoire, peut-être que ça... On espère que les actions font suivre et que c'est pas juste des paroles parce qu'on est heureux d'être content, d'être heureux d'avoir gagné 90 sièges.
Parlant d'être heureux, d'être content, discours de Dominique Anglade où on était assez victorieux. Tu les as trouvés un peu jovialistes vu les circonstances?
En fait, ça m'a rappelé une autre campagne électorale, une partielle cette fois-ci, Marie-Victorin, et c'était le PQ avec Paul Saint-Pierre Plamondon et Pierre Nantel qui étaient en train de fêter le fait d'être arrivé deuxième. C'est à peu près le même sentiment que quand je regardais le discours hier de Dominique Anglade. Je me dis... déjà dans son discours qui était particulièrement court pour une chef de l'opposition officielle, je m'attendais à quelque chose de plus étoffé, démontrer qu'est-ce qu'elle voulait mettre de l'avant comme chef de l'opposition officielle. Mais non, c'était des remerciements, c'était très large, ça a duré 5 minutes, merci, bonsoir. Quand elle dit « les Québécois nous ont donné un mandat fort pour être l'opposition officielle », les Québécois ne se déplacent pas pour aller voter pour l'opposition officielle, ils vont voter pour un gouvernement. Et la seule chose qui a sauvé les libéraux, ben c'est l'ouest de l'île, c'est les comtés déjà acquis dans la grande région de Montréal. Mais si on regarde les suffrages populaires, Dominique Anglade et les libéraux ont fait moins que toutes les intentions de vote et les sondages qui ont été publiés durant la campagne électorale, qui prévoyaient 17% de vote. Elle en a eu 14. Il n'y a rien de quoi fêter quand on est 14 après le Parti québécois que l'on donnait mort et après Québec solidaire. Donc, Il y a déjà la question du suffrage, de la réforme du mode de scrutin qui va être importante. Les libéraux n'ont rien à gagner à embarquer dans une réforme du mode de scrutin, étant donné les résultats d'hier. Mais d'un autre côté, la crainte de plusieurs militants libéraux qui me disent aujourd'hui, c'est à voir le discours d'hier, on se demande si la prise de conscience que ce qui est arrivé est historiquement dangereux est prise au Parti libéral ou pas.
Ouais. Évidemment, Éric Duhem a fait chou blanc. Aucun député d'élu. Peut à quelque part se dire, au moins on a un pourcentage quand même intéressant des voix. Faut dire qu'on partait de loin. Hein. On prenait un parti là qui était à peu près pas connu. Mais tu as aimé Yasmine le ton justement que qu'avait Éric Duhem hier?
En fait, Éric Duhem, hier, il y a eu un discours responsable. Plusieurs attendaient quel genre de discours il allait porter si jamais il n'a aucun élu à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il va vouloir mettre le feu aux poudres, prendre cette colère-là qu'il a réussi à ramasser de toutes ces personnes qui étaient fâchées, puis d'en faire un mouvement social pour dénoncer, finalement, ces distorsions démocratiques? Mais non, Éric Duhem a démontré les étapes qu'il a effectuées depuis qu'il est à la tête du Parti conservateur, les gains qu'il a fait. Il a quand même fait évoluer en un an de 12 % le Parti conservateur qui était à 1 % et qui s'est ramassé hier à 13 %. Ce n'est pas rien. Et il a porté un discours pour essayer de maintenir ses troupes engagées pour 2026. Ça va pas être facile parce que on voit qu'il est dans une transition de discours, une transition où il passe des mesures sanitaires à la privatisation de la santé, les hydrocarbures, GNL Québec, le troisième lien. Et c'est ces discours-là qu'il va vouloir porter dans l'Assemblée nationale. Probablement qu'il va y avoir des négociations avec les différents partis pour lui faire une certaine place, même s'il n'a aucun élu, mais une certaine place où il pourra exprimer les idées de 13 % de la population qui ont quand même voté pour lui.
Mm-hmm. On parle beaucoup de cette distorsion depuis hier soir. En fait, est-ce que tu as l'impression que là, ça fait grand bruit, mais que au final, ça ne trouvera pas d'écho parce que justement, les partis qui sont que ça sert, ce mode de scrutin que l'on a actuellement, ben sont au pouvoir et pas à peu près là dans le cas de la CAQ.
Ben il y a déjà le sujet qui est aujourd'hui omniprésent, celui du déficit démocratique quand on regarde le PQ et le Parti conservateur. Mais Marianne, moi je prévois que le sujet va prendre une plus grande ampleur quand la décision va devoir être rendue sur s'il faut reconnaître Québec solidaire et le Parti québécois comme des groupes parlementaires. Parce qu'ils n'atteignent pas les deux conditions qui sont prévues dans les règles. Et la dernière fois que ça avait été fait, c'était d'un commun accord entre le gouvernement, la Coalition Avenir Québec et le Parti libéral du Québec. Or, est-ce que les libéraux veulent réellement aujourd'hui, est-ce que le caucus libéral veut donner des moyens, notamment financiers, à la recherche pour avoir du personnel à un parti comme le Parti conservateur et le Parti québécois? Rien n'est moins prévu. Là. T'sais, moi, je parle avec des députés puis ils me disent « Ouais, non, ben moi, je comprendrais pas pourquoi on permettrait à des députés puis à des par exemple le PQ et le Parti conservateur d'avoir accès à du financement pour pouvoir nous mener la bataille rude. » Donc ça, la question va prendre une toute autre ampleur de reconnaître Québec solidaire, parce que autrement, ben, ils vont pas jouer à armes égales. Et là, la réforme du mode de scrutin va devenir incontournable parce que les règles, on peut pas s'entendre sur des règles, même avec deux partis, l'opposition officielle et le gouvernement.
Ouais, peut-être que ça sera une façon d'acheter la paix justement plutôt que de revoir le mode de scrutin. Bref, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Yasmine, merci beaucoup.
Merci, Marianne.
Bonne fin de journée à toi.
Cube Radio.